Bonjour Philippe Torreton.
Bonjour.
Vous êtes ce comédien en franc-parler sans filtre, indissociable du théâtre, du cinéma, de la télévision. Vous avez d'ailleurs reçu un Molière pour votre interprétation de Cyrano, un César pour ce rôle incarné d'une main de et d'une voix de maître d'ailleurs, du fameux capitaine Conan de Bertrand Tavernier. Vous êtes quasiment de tous les combats. On vous a découvert en petit-fils avec Mémé, un livre et un documentaire qui retrace le parcours de votre grand-mère, mais indirectement de nos grand-mères à nous. Et là, vous publiez Veillée aux éditions Kalman-Lévy dans la collection Langagé, un récit devenu poème d'une expérience de vie qui vous a changé, une immersion pendant 3 nuits au sein des équipes du SAMU social. Le livre sort mercredi. Et en parallèle, dès le 13 février, vous serez sur scène au Théâtre Antoine en John Keating, donc ce fameux professeur de lettres dans le Cercle des Poètes Disparus qui a déjà reçu plus de 300 000 spectateurs avec 400 représentations. L'histoire se déroule en 59 aux États-Unis. C'est la rencontre entre Todd Anderson, donc là on parle d'un garçon timide, et de son groupe d'étudiants qu'il va intégrer avec cette école préparatoire élitiste à l'Académie de Walton. Et le professeur que vous incarnez, donc John Keating, qui enseigne d'une façon peu orthodoxe, qui aime d'ailleurs à ce qu'on appelle capitaine au capitaine quand il démarre ses cours. Ce prof, il est basé sur le carpe diem. Et quand on regarde ce rôle, on se dit que c'est quasiment du sur-mesure pour vous, Philippe Torret. Donc ça vous correspond pleinement.
J'entends ça souvent en ce moment. Ça va commencer à me faire peur.
Non, au contraire.
Mais c'est agréable parce qu'il y a des comparaisons infiniment moins flatteuses. En tout cas, ça correspond à des tas de choses qui m'obsèdent, qui me hantent même. Je viens de là, j'ai rencontré mon professeur Keating en classe de 5e. Ah, évidemment, avec plein de différences, etc. Mais c'était monsieur Désir, au nom prédestiné, qui m'a fait découvrir le théâtre. Et c'était un vrai pas de côté. Et je crois, finalement, quand on interroge un peu les adultes que nous sommes, on se souvient toujours des professeurs qui nous ont fait faire un pas de côté. Voilà, tout d'un coup, il y avait la norme, il y avait la façon dont l'enseignement devait se dérouler, et il y avait leur façon à eux de le faire, en sortant, en allant en forêt, en faisant découvrir des choses. On se souvient de l'extra-scolaire. Et en fait, la moyenne, c'est-à-dire le prof ni bon ni mauvais, ni sympa, ni bête, enfin, on s'en souvient pas. On se souvient pas de la norme. On se souvient de ce qui dépasse. Alors, évidemment, dans le négatif aussi, le prof particulièrement vachard ou tout ça. Mais on se souvient de ce qui a débordé. Et j'ai envie de dire, baf, qu'est-ce qu'on attend pour déborder alors?
Le carpe diem, c'est un art de vivre en quelque sorte. C'est quelque chose qu'on n'attend pas tout de suite. Est-ce que vous avez entamé, vous, ce chemin-là?
J'essaye. J'ai l'impression que plus j'avance dans la vie, plus je suis dans le carpe diem. Mais vous avez cité ma mémé tout à l'heure, avec mon livre Mémé, qui va devenir une pièce de théâtre d'ailleurs, en 27, mis en scène par Léna Brébant, que je jouerai. D'une certaine façon, cette vie simple, comme ça, à la campagne, où elle, chaque jour s'additionnait à un autre. On est là, on est présent. Je devais avoir ça en moi un peu, de façon brouillonne, intuitive, primitive. Mais il y avait quelque chose en moi. Alors bien sûr, le métier m'a fait rêver, m'a donné des envies. J'aime bien la façon dont les choses se passent aujourd'hui. Et je pense que, je veux pas y voir des signes partout, mais quand on m'a proposé ça en novembre, de reprendre le rôle de John Keating dans ce magnifique spectacle, qui est une vraie aventure théâtrale, hein, parce que c'est rare quand même qu'il se passe un tel succès, une telle envie de continuer. Je me suis dit, c'est pas pour rien peut-être, si on me propose ça.
Il y a une suite logique, quasiment, avec effectivement l'aventure Mémé, qui a marqué tout le monde. On pense évidemment à Ronsard, avec Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. C'est ce qu'on ressent d'ailleurs dans Mémé.
C'est pas exactement du Ronsard, d'ailleurs, c'est du Walt Whitman à la sauce Ronsard.
Voilà, mais il s'était nourri lui aussi du carpe diem.
Enfin, bien sûr.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un lien. Ce qu'on comprend, c'est que votre regard, au fil du temps, s'est de plus en plus affûté à vous focaliser sur l'essentiel.
Oui, et puis le théâtre m'a fait comprendre très vite que le temps n'existe pas, en fait. On croit qu'on a le temps, et puis on se retrouve à 19h55 en coulisses. Le spectacle va commencer dans 5 minutes, et on n'a pas vu le temps passer des répétitions. Et on commence, là on vient de finir la première exploitation du mariage de Figaro. On a joué 120 fois et on s'est tous dit, mais c'est passé à une vitesse mais folle, quoi. Donc le théâtre m'a amené quand même à savoir profiter de ça, de chaque instant. Moi, c'est ce que je dis souvent aux jeunes comédiens avec qui je répète, faut pas procrastiner en répétition. Faut faire tout de suite et maintenant. Voilà. Faut se dire qu'on n'a pas le temps, que c'est déjà trop tard. Donc il faut bosser comme s'il y avait du monde, même s'il y a que le metteur en scène, son assistant, ou peu importe. Mais il faut jouer. Il ne faut pas se dire, allez, bon, là, je ne sais pas encore, on va voir, mais demain, peut-être que... Non, tout de suite, là, vas-y, joue, montre. Tu vas faire mal, forcément, ça va être pas forcément bien. Puis on ne sait jamais, ça va peut-être taper dans le mille. Mais il faut jouer. Il y a une urgence à jouer. Je l'ai chevillé en moi.
Ce qui est certain, en tout cas, c'est ce que ça vous a permis d'obtenir, le théâtre. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas que vous vous cachiez, mais vous cachiez vos émotions, entre guillemets. C'est vrai que c'est difficile de montrer ses fêlures. Et au fil du temps, le curseur s'est mis au bon endroit. Et c'est vrai que Mémé, c'est, j'ai l'impression, un tournant qui a marqué le fait que vous assumiez que vous étiez avec cette sensibilité-là, que vous aviez le droit d'avoir des fêlures, vous avez le droit d'avoir un regard sur la vie différent, peut-être plus écorché par moments aussi.
Ah, sûrement, oui. C'est un métier un peu bouleversant parce qu'on joue avec une matière qui est soi-même. Alors bien sûr, il y a les mots des autres qu'on apprend, qu'on digère, mais ce que vous allez regarder, que ce soit sur un écran ou à la télé ou sur une scène de théâtre, bah c'est moi. Alors c'est un moi un peu modifié, c'est pas tout à fait moi, mais c'est quand même mon corps, c'est quand même mes yeux. Donc c'est troublant. Et oui, ça heurte certaines pudeurs, surtout que moi j'ai toujours pensé que le vrai moteur du comédien ou de la comédienne, c'est pas le matuvisme, c'est pas l'extérieur, c'est au contraire la timidité, l'intériorité. On pense toujours que l'acteur est là pour... Non, les acteurs sont... Enfin, en tout cas, les acteurs que j'aime sont des grands timides. Il y a de la modestie. Ça peut paraître contre-intuitif, mais j'y crois beaucoup à ça.
Ce que montre John Keating, ce capitaine au capitaine, c'est à quel point c'est important d'affronter le conformisme. Et à quel point il faut garder sa différence et rester soi-même.
L'aventure extraordinaire de penser par soi-même. Ça ne veut pas dire que ce qu'on pense est juste. D'essayer tout seul. Et c'est marrant parce que mon premier livre s'appelait « Comme si c'était moi ». Et à la fin du livre, je disais « il faut déchirer les préfaces ». C'est exactement ce que fait John Keating dans le film et dans la pièce. Je ne supportais pas qu'on me dise, avant que je le découvre, pourquoi cette pièce est géniale, pourquoi ça... Enfin, j'avais envie de dire « laissez-moi découvrir ». Je me souviens, quand j'avais 12 ans, 13 ans, Scapin, par exemple, qu'on étudie en 5e, qui m'a valu un vrai succès à la Comédie française et un souvenir impérissable. Eh bien, j'ouvrais Scapin... Et ça me tombait des mains. Je savais même pas où était le texte, tellement il y avait de notes, de photos, d'astérix, de machin, etc. Et du coup, pour des élèves comme moi, mais je suis sûr qu'on est des millions, tous les ans, être des comme moi, c'est compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la littérature, c'est pas fait pour toi. Parce qu'il faut tellement de professeurs pour mettre des trucs, des repères chronologiques et des choses comme ça. Ça veut dire que ça va être très compliqué pour toi et que t'es pas assez intelligent. Donc, on rejette. Et là, c'est le drame parce que ça contredit la mission de l'éducation nationale. Alors que moi, pendant 2 ans, et je continue à le faire, mais en distanciel, j'ai animé des ateliers dans des classes de CM1, CM2 avec du Shakespeare en CM1. Être ou ne pas être. À 10 ans, avec du Corneille, le Cid. Et on travaille des petits bouts. C'est ce que je disais dans mon premier livre. Hein. J'ai un peu de suite dans les idées quand même. Et donc, je continue mon petit bonhomme de chemin comme ça. Et on travaille des petits bouts de phrases. Et donc, se dire, bah, tout seul, je suis pas grand-chose, mais comme tout le monde a une petite phrase, bah, ensemble, on est un monologue, on est une tirade. Mais ça donne des choses merveilleuses.
Dans Le Cercle des Poètes Disparus, John Keating, ce qu'il met en avant, c'est effectivement ce côté que vous enseignez dans les ateliers à ses élèves de CM1, to be or not to be. C'est pas si simple que ça non plus d'être. On l'a vu, non. Vous avez toujours pris position à des moments très forts. Ça demande du courage aussi d'être qui on est et de pouvoir l'exprimer, de pouvoir dénoncer ce qui nous touche, ce qui nous heurte.
Ce qui demande du courage, c'est de manifester actuellement quand on est iranien ou iranienne. Ça demande du courage. C'est de s'opposer à un dictateur en Amérique du Sud alors qu'il est encore en place. Ça demande du courage. C'est de résister pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça demande du courage. À poser son nom à une pétition, à une tribune, écrire soi-même des textes, bah voilà, ça va faire grogner des gens avec qui, de toute façon, on n'a rien à faire. Et puis, ça demande pas tant de courage. C'est pour ça que ça m'énerve, le silence comme ça de beaucoup de gens. J'ai pas envie de dire, en ciblant particulièrement ma profession, mais c'est pour ça que le silence m'énerve. Le silence est beaucoup plus dangereux que les actes négatifs, parce que le silence autorise. Si on était un peu plus nombreux, à être un peu vif, à être un peu plus musclé du cerveau et à se dire « Allez, merde, non, on n'accepte pas, on le dit. » Dire, c'est pas grand-chose, on est en France. Qu'est-ce qu'on risque? Voilà, que des gens vous aiment pas. Bah, c'est d'être d'une grande naïveté de penser que on peut faire tout un parcours de vie sans gêner personne. C'est pas normal.
En tout cas, ça peut avoir des conséquences sur une carrière et empêcher de tourner. C'était votre cas un peu quand notamment vous êtes positionné face à un acteur qui s'appelle Gérard Depardieu, que vous avez dénoncé l'exil fiscal et que vous avez aussi dénoncé un certain nombre de choses.
Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé à ce moment-là et qui continuent d'ailleurs, mais... C'est pas grave.
Donc ça demande du courage.
C'est pas grave, moi je suis heureux dans ma vie, je joue. Là, je vais jouer John Keating. Donc, il est où le problème, quoi? Franchement, j'écris des livres, je suis publié, j'ai une famille chouette, enfin...
Quand on parle de John Keating et du 5 des Poètes Disparus, on pense évidemment à Robin Williams, qui a incarné ce rôle d'une façon extraordinaire. Malheureusement, il a tiré sa révérence parce que justement, il était différent, parce qu'il avait une sensibilité à fleur de peau, parce qu'il ne se retrouvait pas dans ce monde. Est-ce que vous vous êtes nourri, ou justement, vous avez essayé de vous échapper un peu de ce qu'il nous a offert à l'image et à l'écran?
le film, il est en moi. Moi, je me souviens de l'émotion que j'ai eue. Enfin, je l'évitais quand j'ai vu le film il y a des années maintenant. Et c'est un film qui a constitué aussi forcément ma façon de penser avec plein d'autres films et plein d'autres pièces et plein d'autres livres et plein de rencontres. Mais ça fait partie, ouais, de mon puzzle intérieur, ce film-là. Je ne construis pas mon chemin d'acteur en fonction de ce qu'ont fait les uns ou les autres.
Non, moi, mais c'est tellement, tellement marqué que c'est difficile, malheureusement, de...
Non, c'est tout simple, en fait. Vraiment, c'est qu'on a une fausse idée de ce métier, mais c'est tout simple. Il suffit de lire le texte, puis se dire, tiens, comment je vais dire ça, moi? Et c'est tout. Moi, j'ai vu Stéphane Fraise, que j'ai trouvé formidable, et alors, bah, tant mieux. Ça n'influe pas en moi. Sinon, ce serait dramatique, parce que je fais du théâtre depuis 35 ans, maintenant. Enfin, même, si on a plus que ça, si on inclut quand j'ai commencé au collège, mais en tout cas en professionnel, ça fait au moins 35 ans. Et quand vous jouez un rôle, quand vous jouez Scapin, eh bien, il y en a eu plein des Scapins. Et des super, notamment Robert Hirsch. Et ben moi, ça me rendait joyeux. La preuve, c'est que j'ai invité Robert Hirsch quand j'ai joué Scapin à la Comédie Française, et il est venu, alors qu'il revenait jamais. Et on a passé une soirée magnifique.
Je voudrais qu'on parle de votre écriture aussi, parce qu'il y a
avec plaisir
cette dimension depuis Mémé de l'écriture. Là, ça s'appelle Veiller, ça sort mercredi, ça sort aux éditions Kalman-Lévy. C'est un poème-récit bouleversant qui est un condensé poignant et juste de trois nuits blanches que vous avez passées au sein des équipes du SAMU social à Paris. Trois nuits pendant lesquelles votre vie, on a le sentiment, a été mise à contribution, c'est-à-dire on a l'impression que ça vous a vraiment tourneboulé, bouleversé. Quand on lit vos mots, évidemment, on est extrêmement touché. Le SAMU social aide à lutter contre l'exclusion sociale. Vous écrivez « J'ai commencé à rédiger, mais les phrases sentaient la phrase et rien n'était à la hauteur des chocs éprouvés. La littérature se faisait indécente. »
Eh oui, ça peut arriver. C'est arrivé dans l'histoire de la littérature aussi. Moi, un de mes auteurs préférés de théâtre, c'est Beckett, et c'est vraiment cette littérature de l'après-guerre. On va faire des phrases après les camps de concentration et qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire que tout reprend comme avant ? C'est difficile. C'est pour ça que Giacometti a fait ces bonhommes qui marchent complètement décharnés. Beckett a retiré des mots. Ces dernières pièces, il n'y avait plus rien, il n'y avait que des onomatopées. Alors, comparaison n'est pas raison. Mais oui, ça m'a percuté. Parce qu'une chose est de passer devant quelqu'un qui tend la main, et puis parfois on a une petite pièce, parfois on n'a rien, parfois on se dit, tiens, bah dans la boulangerie, je vais lui acheter ça. Enfin, bon. Et puis on a tous nos assos, on fait des petits dons comme ça, etc. Et c'est très bien. Mais une autre chose est de s'asseoir, de s'accroupir et de parler et de découvrir une vie, sentir une odeur, des odeurs, voir les traces de maladie, de putréfaction sur les bras, l'impétigo partout, les dents, voir que la rue vous dégrade en quelques semaines. Toutes les rues de Paris devraient s'appeler rue de la Roquette parce qu'on tue, la rue tue, exécute. C'est quand même pas loin de 1000 personnes par an qui meurent dans la rue, alors qu'on est, je sais pas, je m'en fous du classement de la France, mais enfin en tout cas on est une grosse puissance quand même. On a des choses, et là, ça augmente. On n'arrête pas à le juguler, ça, mais ça augmente. Il y a 15 ans, il y avait 150 000 personnes à peu près dans la rue. Il y en a 300 000. On a doublé en 15 ans. Qu'est-ce que c'est que cette société-là ? Comme le faisait remarquer de façon très simple Jean-Marie Leclésio, il dit, mais pourquoi on ne regarde pas ça ? Tout simplement. Et je l'ai fait en plus en me rappelant Bertrand Tavernier. Parce que je suis sûr que il serait toujours vivant. Après mon expérience, là, je suis sûr qu'il aurait fait un film là-dessus. Ça l'aurait percuté aussi. Et donc, le fait de se pencher, de voir, de s'arrêter, de s'y arrêter et de tenter quelque chose. Alors moi, je faisais pas partie du SAMU, donc je pouvais pas prendre une initiative. J'étais observateur. Mais bon, j'étais là, voilà. On devrait tous faire ça parce que ça change la vie, vraiment.
Le titre, c'est Veiller.
Veiller.
C'est quoi veiller ?
J'ai envie de dire soyons attentifs, veillons les uns sur les autres. Moi, je trouve que le plus grand danger de notre époque, c'est le manque d'empathie. On va se foutre sur la gueule pour des tas de raisons. Et si on n'en a pas, on va en inventer. Parce que on est dans un entonnoir au niveau des richesses, au niveau des matières premières, au niveau du territoire, au niveau des champs cultivables, etc. Le climat qui se dégrade, donc des terres qui étaient fertiles le sont moins. Et donc, de plus en plus, on va être dans un monde où, oui, je sais, vous en avez besoin, mais moi aussi, et je suis plus fort, donc je le prends. C'est déjà ce qui se passe, hein, je suis pas naïf. Mais ça va être ça de façon caricaturale. Et ça va être comme ça au cœur même de nos sociétés. Et c'est déjà comme ça. Donc, soyons empathiques. Le plus grand acte de résistance dans les années à venir, ça va être la gentillesse.
Vous écrivez Paris le beau, Paris l'olympique, le triomphal, la fête est terminée, Paris se dépouille, se démaquille, les écartés vont revenir, les non-remerciés, les pas souhaitables, les tâches humaines. C'est tellement fort. Et en même temps, c'est exactement ce qui se passe. C'est quoi, selon vous, la solution, Philippe Torreton ?
Les solutions, elles sont multifactorielles. Enfin, il n'y en a pas une. Bien sûr, parce que c'est comme un, pardon de la comparaison, mais un robinet qui fuit. Bon, bah, il y a à trouver la fuite. Pourquoi ça fuit? Il y a à réparer les dégâts de la fuite, etc. Bah là, faut peut-être travailler sur la société qui engendre ça. J'entendais l'état de la psychiatrie en France qui est assez déplorable. Faut mettre l'accent là-dessus aussi, parce que faut qu'il y ait des places d'accueil, faut qu'il y ait du personnel aussi pour s'occuper des gens.
Et la santé mentale, ouais.
La santé mentale, c'est très important parce qu'en plus, elle se dégrade très vite dans la rue. Faut créer évidemment des centres comme Romain Rolland. Il en faudrait partout autour de Paris. Il faut aussi accepter que dans la rue, nous sommes tous des cas particuliers. Or, on demande de correspondre. Si vous avez un chien, ah ben non, on peut pas vous accueillir. Mais on va pas demander à quelqu'un de se séparer de son chien pour passer une nuit à l'abri. Enfin, c'est quand même d'une cruauté sans nom. Il y a beaucoup de femmes à la rue qui ont des chiens. Ça protège un chien contre le viol, contre les coups, etc. Et puis, c'est un animal de compagnie. Quand on est en couple, pareil, bah non, on peut pas, c'est que des chambres individuelles. Enfin, donc, qu'il y ait une faculté comme ça de répondre aux cas particuliers.
Vous terminez ce livre en écrivant « Cherchez pas, il n'y a pas de fin, la rue est sans fin ». C'est un coup de poignard, on a une responsabilité chacun et chacune. Hein. Et dans les remerciements, il y a cette phrase qui est incroyable, vous écrivez « J'espère que ce livre sèmera l'intranquillité autour de lui ». C'est le but.
Oui, moi, ça m'a rendu intranquille de faire ces maraudes, comme on dit, avec le SAMU social, de voir ces jeunes gens, parce qu'il faut avoir la santé pour faire ça, qui essayent chaque nuit de ramener en jour, comme on dit, donc de les mettre dans un processus de demande de papier, demande d'hébergement, demande d'allocation, etc. Confrontés à leur manque de moyens, parce que bah, chaque équipe, on commence les maraudes vers 20h, enfin, et on sait qu'on a... Allez, 5 places. Et on va croiser 70, 80 personnes. Quand on s'arrête pour aider quelqu'un, on voit, sort de derrière des voitures, d'un parc, des jeunes qui disent « Vous n'avez pas un slip? Vous n'avez pas une paire de chaussettes? Je peux prendre un café ?» Plein de jeunes, 3, 4, 5. Alors on donne des slips, des chaussettes, un duvet, mais j'ai appris que c'est fini, les duvets, ils peuvent plus en donner. On va dire, mais en France, on peut pas, je sais pas, on peut pas passer un accord avec Decathlon, Leclerc, machin, et qu'on ait une quantité illimitée de duvets. Ça va ruiner la France de donner des duvets à des pauvres gens dehors. Franchement, quelle indécence, quoi. Pourquoi on... C'est pareil pour le café. Je me souviens, il y a une femme qui dit, vous voulez un café? Oui, alors je fais le café et tout ça. Elle fait, oh, il est pas bon. Et c'est vrai qu'il est dégueulasse. C'est du café soluble dégueulasse. Je citerai pas la marque, mais on va dire, on peut pas faire un bon petit café quand même. Ça va ruiner le pays aussi, que ce soit, on arrive avec un machin de café, on le fait un bon café filtre, et puis voilà. Ces jeunes gens du SAMU sont vraiment admirables. Et ce sont des leçons d'élégance. Le vouvoiement est de rigueur. On s'approche tout doucement. On n'impose rien. On écoute. On se met à la hauteur. Si la personne est par terre, on se met par terre. Et on discute. Et puis, il y a cette phrase que j'ai trouvée terrifiante. Si tu vois, parce que parfois, c'est moi qui m'approchais tout seul. Il me dit, mais si la personne dort, tu ne la réveilles pas. Même s'il pleut, même s'il fait froid. Parce que c'est tellement difficile de dormir dehors, dans la rue, que si par hasard, la personne dort, bah, ça va lui faire un petit quart d'heure, 20 minutes. Ça va permettre de récupérer un peu d'énergie. Et... Donc, vaut mieux laisser tranquille quelqu'un qui dort.
En tout cas, vous œuvrez pour que, avec vous, on ait envie de crier, d'aider, de s'arrêter,
ouais,
et
ce
de
serait
discuter.
Bien, ouais. Ce serait bien que ce livre donne envie, comme ça, de faire un petit peu plus. Voilà, c'est pas grand-chose, mais un petit peu plus.
Capitaine au capitaine, Philippe Torreton, oui. Merci beaucoup d'être c'est passé moi. Dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça démarre le 13 février prochain au théâtre Antoine-Jean-Marc Dumont à Paris. Et puis, il y a votre livre Veillé, qui sort mercredi chez Calman Levy dans cette collection qui s'appelle L'Engagé. Prenez le temps de le lire, comme il faut absolument prendre le temps de regarder un peu plus ce qui se passe autour de nous. Merci beaucoup.
Ah ouais, merci.